Bonjour Claude Piron, vous avez jusqu'à 11h pour nous convaincre.
Je n'essayerai absolument pas de vous convaincre, mais enfin je salue tous les auditeurs et nous aussi avec beaucoup de plaisir.
Alors aujourd'hui, si à 11h je réussis à quitter Mordicus en disant que cet été j'ai étudié l'espéranto, c'est que vous aurez gagné. L'espéranto, une langue qui n'a pas de patrie?
Non, c'est-à-dire une langue qui est totalement indépendante de tous les intérêts politiques, économiques, religieux et autres.
Mais c'est quand même difficile d'apprendre une langue en se disant, mais où est-ce que je vais aller, par exemple, faire mon stage linguistique?
Oh, il y a des tas de stages linguistiques en espéranto, il y en a en Hongrie, il y en a en France, il y a au moins deux endroits, il y a à La Chaux-de-Fonds, au Centre culturel espérantiste. Il y en a un peu partout, il y en a en Floride, il y en a en Californie,
mais
il y en a en Bulgarie.
Mais ça n'est pas un peu sexe qu'on se retrouve entre nous?
Mais pas du tout, puisque tout le monde peut venir participer et partager les joies de la compréhension internationale, la compréhension sans barrière. Sans barrière linguistique, et très souvent on pourrait presque dire sans barrière psychologique. Parce que comme tout le monde a un accent étranger, tout le monde fait des fautes, ce n'est la langue maternelle de personne pratiquement, alors on se sent beaucoup plus sur un pied d'égalité que moi si je parle allemand avec un allemand ou un suisse allemand, mais je me sens tout à fait en bas et lui en position haute, la même chose avec l'anglais ou n'importe quelle autre langue, tandis que là,
ça met les gens à niveau.
Ça met les gens à niveau. Mmh. Et ça, c'est une expérience que qu'on ne peut pas décrire, il faut l'avoir fait pour sentir à quel point c'est unique, c'est extraordinaire.
Alors ce que je n'ai pas dit, Claude Piron, c'est que vous êtes polyglotte avant tout, ancien traducteur à l'ONU et à l'OMS, psychothérapeute et enseignant et espérantiste. Et
oui.
Et que vous signez le défi des langues, du gâchis au bon sens, aux éditions de l'Harmattan. Alors vous avez également écrit un article sur lequel on reviendra, Confession d'un fou, qu'on peut lire sur le net, où vraiment, bon, vous êtes là pour défendre cette langue. Hein. Alors ce qu'on peut demander aux auditeurs aujourd'hui, parce que je ne sais pas si les disques vont partir, parce que Tonnerre mondial et que Frédéric Collet, notre réalisateur, est un vrai fan et que la télé est allumée de l'autre côté de la vitre. Mais si des auditeurs qui savent parler l'espéranto veulent venir nous faire au téléphone les commentaires des images en espéranto, qu'ils le fassent, qu'on les entende, on verra si ça nous parle cette langue. On reviendra sur la construction de la langue, etc. tout à l'heure, mais ce que je vous propose, c'est un peu de musique et puis nous nous rendrons auprès de quelqu'un qui lui... pour porter cette langue, fait des films en espéranto. Pour l'instant, Mordicus, vous pouvez le taper à rsr.ch. Le fax, c'est le 021-318-1919. Puis là, j'ai essayé de me lancer. Le numéro de téléphone, Noul Doudek, Sesquintri, Sapdek, Sapdek.
C'est juste bien, c'est bien, c'est bien.
Une belle pomme sur un arbre très grand.
Une nouvelle pomme sur arbre très grand.
Amez-vous la bonne musique, Monsieur Catherine. Laissez-vous pas dans mon merci, Monsieur Catherine. Parlez-vous dans l'œil, Monsieur Catherine.
Quel impôt. Quelle importance, nous ne nous reverrons jamais.
Dansez-vous encore là-bas, dans les dansings. Fumez-vous la marijuana, Monsieur Cassé. Vous êtes très bien, Monsieur Cassé.
Voilà, c'était Catherine. Parlez-vous anglais, monsieur Catherine? C'est la deuxième langue au monde, l'anglais. Pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas plutôt l'anglais que l'espéranto?
Parce que l'anglais, il est extrêmement difficile de le maîtriser. L'anglais, c'est une langue qui fait illusion, c'est une langue séductrice. Le linguiste Claude Agege dit que savoir une langue, il voit ceci. Pour moi, connaître parfaitement une langue, c'est être capable de saisir des jeux de mots débités sur un ton très rapide par des usagers natifs et la parler sans être identifié comme un étranger. Il y a extrêmement peu de gens qui savent l'anglais à ce point de vue-là. Moi, j'ai vécu 5 ans aux États-Unis. J'ai calculé un jour que j'avais derrière moi quelque chose comme 40 000 heures d'études et de pratiques de l'anglais, mais je ne serai jamais sur un pied d'égalité avec un anglo-saxon. Il a toujours la supériorité, il maîtrise l'arme linguistique. Si nous avons une discussion importante, il va trouver des nuances, il va avoir un vocabulaire 10 fois plus riche que le mien, je serai dans une situation d'infériorité. Ça, c'est une première raison. Deuxième raison, l'anglais convient extrêmement mal au peuple asiatique. En Corée, vous avez des médecins qui gagnent $300 pour couper la petite, comment on peut appeler ça, ça s'appelle le frénum, je crois, ce petit machin qu'il y a sous la langue, parce que l'idée s'est répandue que la raison pour laquelle les Coréens n'arrivaient pas à bien prononcer l'anglais, c'est qu'ils avaient cette petite
peau sous la langue.
Oh, c'est pas une peau, là, c'est une, comment, une sorte de rainure, non, de...
Bon, vous voyez, moi, je ça va très bien pour la radio, mais ça va.
Bon, mais alors, vous vous rendez compte, au Japon, beaucoup de parents payent $50 américains par heure d'enseignement pour donner des leçons privées à des gosses de 5 ans, et tout ça ne réussit pas. Alors, je trouve que c'est très injuste.
Il y a une autre raison que François Rondin m'a donnée, en disant que finalement l'anglais appartenait à un peuple, une ethnie, alors que l'espéranto, tout le monde a le même rapport, c'est une langue créée. Alors, on va découvrir quelques films avec les commentaires, et aussi la grande motivation de M. François Rondin, qui donc est producteur de films en espéranto.
Et voilà, c'est l'ange de vie, il vient vivre.
Avec mon plan de Dieu, mon souvenir. Et mon diable, je vous le dis, 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 je vous
Alors, il parle quelle langue? Là, on baisse un peu le son. Donc, on regarde un film, il parle quelle langue?
Alors, il parle l'espéranto. Il vient de découvrir, finalement, qu'un Suisse allemand, un Suisse romand ne savait pas. Depuis une semaine, ils travaillent ensemble. Et là, il découvre, par hasard, qu'ils parlent ensemble l'espéranto.
C'est quoi l'histoire? Donc, ce sont trois hommes dans un bistrot.
Alors, au départ, ce sont un mécanicien dans un garage qui reçoit un collègue suisse allemand qui vient lui installer une machine qui a un mode d'emploi en anglais. Le suisse allemand ne parle pratiquement que le suisse allemand. Le suisse romand parle très mal l'allemand. Ils ont de la peine à se comprendre. Pendant une semaine, c'est la gageure. Et puis, finalement, au moment où les ennuis commencent à arriver, par hasard, ils découvrent qu'ils parlent l'espéranto et ils arrivent à résoudre leurs problèmes.
Comment s'appelle donc le film? C'est un film pas en espéranto, mais sur l'espéranto aussi, les deux.
Oui, c'est un film en fait qui raconte un peu le problème des langues que nous avons en Suisse. La plupart des étrangers ne se rendent pas compte que nous vivons en permanence avec la plupart des langues qui nous entourent. Et c'est une manière de montrer que cette pluralité des langues en Suisse ne pose pas de problème, mais que finalement l'espéranto rend quand même bien service.
Et puis le titre en espéranto?
Alors le titre du film s'appelle en français La grosse petite caisse, c'est un jeu de mots en espéranto, La ega caisseto, la grosse petite caisse.
On les écoute encore un peu. Là il y a un artiste en noir qui est arrivé dans un personnage joué par un noir.
Oui, parce qu'en fait, dans l'histoire, si vous voulez, c'est une personne qui reçoit un voyageur espérantophone, qui passe par Lausanne et qui est noir et qui est demandé la possibilité de pouvoir passer quelques jours. Et puis, le hasard fait aussi qu'il se retrouve comme ça à boire un verre et à pouvoir dialoguer sur les problèmes que ont nos deux héros dans le film.
Mais comment on se reconnaît? Ben, c'est pas forcément une chose tout de suite qui nous vient à l'esprit de dire, ah tiens, je parle en espéranto, toi aussi.
Alors écoutez, il existe un petit drapeau que l'on porte souvent à la boutonnière en pins, qui est une petite étoile verte, l'étoile des 5 branches des 5 continents, verte pour l'espérance. Et puis autrement, ce sont des adresses qui se passent à travers des brochures, à travers des associations espérantophones qui permettent comme ça d'entrer en contact un peu partout dans le monde. Et puis il existe toute une ramification de délégués de l'Association universelle d'espéranto qui permettent d'avoir dans chacune des grandes villes du monde des personnes qui sont à votre disposition quand vous voyagez, que vous êtes espérantophone, pour pouvoir vous rendre service. Tout d'un coup, vous avez une race dedans, vous ne savez pas vers qui vous retournez, il suffit de prendre la liste, Lausanne, vous trouvez un nom, et là, un coup de fil, ça vous permet d'entrer en contact avec quelqu'un qui va vous aider.
On va poursuivre encore, là, ils sont en train de déménager une caisse. Mais il y a des allusions, on sent un peu l'italien, on sent un peu... Enfin, c'est une langue étrange comme sonorité.
Écoutez, c'est une langue qui est prise à 75% dans les langues latines et 25% dans les langues anglo-germaniques. Alors il est bien clair que toutes les langues latines s'y retrouvent sans trop de difficultés, et c'est vrai aussi que pour toutes les personnes qui ont soit de langue maternelle latine ou anglo-germanique, avec des connaissances dans d'autres langues européennes, j'ai beaucoup plus de facilité pour apprendre l'espéranto.
Il y a quelque chose d'un peu archaïque, d'un peu ancien. Je ne sais pas, moi ça m'évoquerait le latin vulgaire. Okay. Vous voyez ce que je veux dire? Personne... Il y a une consonance comme ça. Ou le romanche.
Oui, je crois que ce qui donne peut-être cette connotation que nous n'avons pas en français, c'est que nous avons des terminaisons qui se retrouvent en espéranto. Par exemple, tous les noms se terminent par O, tous les adjectifs se terminent par A. Donc c'est vrai que chaque fois que dans la phrase vous retrouvez un O, un nom, ça se termine par O, donc vous le sentez régulièrement dans la phrase. Et c'est peut-être ça qui vous donne cette impression.
Mais ce qui est étrange, c'est que c'est finalement une langue qui n'est pas née sur un territoire. Elle est née sur un territoire mental, si on veut, puisque des gens ont voulu que ça existe, mais ce n'est pas enraciné dans un territoire, on va dire, réel.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de langues qui sont enracinées, qui ont évolué avec le temps, qui ne sont d'ailleurs plus du tout aujourd'hui ce qu'elles étaient à l'origine. Et il y a des langues encore aujourd'hui qui ont été créées ou adaptées. Par exemple, le Swahili est une langue qui a été adaptée de toutes pièces au même titre que l'espéranto pour permettre aux Africains de communiquer entre eux. Donc ça dépend tout des besoins et des nécessités des régions, et ça dépend aussi des possibilités, des facilités que l'on offre. Plus une langue est ancienne, plus elle évolue, plus elle devient difficile, plus elle a ses spécialités, plus ses exceptions, etc., donc beaucoup plus difficile à apprendre.
Ah, fino bona, cio bona. Et c'est, ça me manque encore, oui. Qui manque? Mais là, tu penses que tu manques pour la machine? Ah, ça m'aide. Mais là, c'est trop d'émotion.
J'ai eu trop d'émotion.
Bon,
qu'est-ce qu'il a dit juste avant?
Alors, tout est bien qui finit bien. Ils ont eu beaucoup d'émotions et ils ont décidé de porter un toast et ils ouvrent une bouteille de champagne pour fêter la fin de l'histoire.
Fino.
Fino.
Et vous-même, qu'est-ce qui vous a amené à l'espéranto?
Alors écoutez, moi j'ai eu beaucoup de difficultés à apprendre l'allemand, beaucoup de difficultés à apprendre l'anglais, comme beaucoup de mes congénères, et c'est vrai que quand j'ai entendu parler de l'espéranto, je me suis dit, une langue supplémentaire, ça n'ira jamais, c'est pas possible. Jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a expliqué le fonctionnement de l'espéranto, sa simplicité, et puis je me suis dit, oh, faut voir, sans vraiment de conviction. Et effectivement, ce côté ludique de l'espéranto, où les mots se créent facilement, ou avec des préfixes et des suffixes, vous arrivez à exprimer pratiquement n'importe quoi, m'a beaucoup amusé, d'autant plus que j'aimais beaucoup les problèmes de syntaxe, l'étymologie des mots, les jeux comme le Scrabble. Et là, vraiment, j'étais complètement satisfait de pouvoir moi-même jouer avec les mots dans le cadre de l'espéranto.
Mais il faut avoir une certaine optique de la vie, il faut avoir une certaine philosophie de vie pour investir de l'effort pour pouvoir communiquer dans cette langue.
Je ne crois pas qu'il faille avoir une ouverture particulière, parce qu'il y a beaucoup de linguistes qui apprennent l'espéranto uniquement pour le plaisir de la langue. Mais il est bien clair qu'au moment où vous décidez d'entrer en communication avec les autres, sans barrière de race, de mentalité et autres, et que vous avez, comme moi je l'ai toujours eu avec ma femme, envie de voyager à travers le monde et de connaître les gens, elle est toujours limitée à cause de la barrière de la langue. C'est vrai que l'espéranto est un moyen de communication extraordinaire, mais les gens en présence sur la même longueur d'onde. Alors il est vrai qu'en réunissant des gens qui ont envie de communiquer, des gens qui ont envie d'apprendre comment vit l'autre et de voir où il vit et d'aller chez lui, ça met les gens dans une catégorie de gens ouverts, de gens qui sont peut-être à l'opposé de ceux qui disent les étrangers à la porte et on est bien chez nous et qu'on nous fiche la paix.
Ogni certa esprima il più d'applesuro c'è istante la proiezione de bella filmo. Sin la vinte en la pancia, bro, ili estas nun laborontai. Dejorinte tride chiaro, et tiu stat officisto estas generita, che zorgas pri la paretado de cocoi, anasme, che anseroi.
Donc là, nous sommes dans un film de science-fiction, le titre...
La Verda Stellula. L'homme vert de la planète.
C'est donc, vous m'avez un peu raconté, c'est un extraterrestre qui vient sur Terre pour nous convaincre de construire la paix, si on veut. Et là, il va apprendre l'espéranto, parce qu'il tombe sur des Suisses bougons qui ne lui parlent pas, c'est ça?
C'est à peu près ça, c'est-à-dire qu'il arrive en pleine montagne, dans un chalet qui est habité par deux personnes d'un certain âge, un peu renfermées, qui ne se parlent plus, etc. Et notre petit martien, finalement, désire entrer en communication avec eux, mais ne sait pas comment faire. Et par hasard, il découvre dans la grange derrière un cours d'espéranto sur disque, et par un moyen de relation télépathique, comme ça il apprend l'espéranto en une fraction de seconde, ce qui lui permet d'entrer en communication avec notre vieux couple.
Là, c'est sous-titré en espéranto.
Alors, bien sûr que le film qui est diffusé à l'échelle de la planète doit être compréhensible par tout le monde. Donc, chaque fois qu'il n'est pas parlé en espéranto, il est sous-titré en espéranto pour que les gens puissent le comprendre.
Alors, moi, ce qui me frappe dans ces deux exemples qu'on a pu voir ensemble, c'est que chaque fois, l'espéranto est un symbole d'ouverture et de communication.
Et c'est exact qu'il est même dans notre langage. Très très souvent, on dit que la musique est l'espéranto de la communication. Quand on parle d'universalité, on dit c'est comme l'espéranto. Les gens parlent de l'espéranto comme une réalité. La plupart des gens sont persuadés que l'espéranto a disparu, ce qui n'est pas du tout le cas, puisque d'après les statistiques connues, l'espéranto n'a jamais régressé. C'est toujours développé jusqu'à aujourd'hui, où il est pratiquement présent dans tous les pays du monde. Charlie Chaplin, je ne sais pas s'il était véritablement espérantophone, mais il a utilisé l'espéranto dans un de ses films qui s'appelle Le Dictateur. Dans la partie où il joue lui-même le dictateur, il a inventé une langue qui ressemble à l'allemand pour pouvoir exprimer cette rudesse qu'il avait envie de marquer à travers son film. Et inversement, dans le rôle qu'il joue de petit juif dans le ghetto, il fallait absolument trouver une langue qui soit le plus neutre possible et il n'avait pas envie d'utiliser le yiddish. Ce qui fait qu'il a fait parler tous ses personnages en espéranto. Semble-t-il que les sons de son film n'aient jamais été utilisés. Il a tout de suite doublé ses personnages de manière à être compris en anglais. Mais les espérantophones, le sachant, en plus dans le film on le voit, les devantures de magasins sont écrites en espéranto. ça a permis aux espérantophones de faire traduire en fait les textes visibles à l'écran par des sourds-muets.
Donc des sourds-muets ont regardé, ils ont tout de suite lu sur les lèvres.
Exactement, et ils ont pu comme ça transcrire les textes, et ces textes ont été repris par des espérantophones au doublage, et ça nous permet d'avoir des cassettes où on a la langue originale du film de Chaplin Dictateur parlé en espéranto dans le cadre du ghetto.
Del più curiosa lando giurassa, la homo e chi amboris aldoni io alla terra, acqua e faino, musico, la charmon de meccanica musico.
Ça, c'est un documentaire, hein?
Alors oui, c'est un documentaire sur les boîtes à musique suisses, avec leur histoire, et, qui raconte un peu comment les ouvriers de la montagne, pendant les longs mois d'hiver, se trouvaient à s'occuper et cherchaient des moyens justement de pouvoir faire un peu d'argent pendant ces mois d'attente, avant, pendant ces saisons froides.
Persia acta cae musica sentemo, ili plu donatsa alla musica scatolo giam valoro de artaggio, cae de tesoro. Avide desirata. Unue, la adaptisto fine prilaboras la aion e la melodion lau la disponebla ton amplexo.
Il y a un documentaire comme ça, il ne va pas être diffusé, j'entends, sur la télévision suisse romande. Dans quel milieu on va le diffuser?
Alors écoutez, les documentaires de ce type-là, d'abord, plaisent énormément aux étrangers comme les Japonais ou les Coréens qui adorent la Suisse, qui adorent le Heidiland.
Et qui parlent espéranto.
Et qui parlent espéranto. Et puis, chaque cassette est accompagnée du texte du commentaire dactylographié, ce qui permet aussi de le multicopier dans les associations, dans les cours, pour pouvoir, par exemple, faire une étude de texte aussi de manière beaucoup plus agréable avec des images et avec de la musique.
J'ai vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement. Jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à 1000 miles de toute stérilité. C'était bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé.
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
J'ai vu même qu'il y a le Petit Prince de Saint-Exupéry qui est traduit en espéranto.
Alors oui, le Petit Prince de Saint-Exupéry, qui a d'ailleurs eu plusieurs titres, puisque il y avait plusieurs possibilités d'exprimer le mot grand. En espéranto, donc le contraire de grand espéranto qui devenait granda malgranda, et le terme eta qui est un suffixe qui est utilisé pour comme diminutif a été préféré parce que c'était peut-être malvenu de prendre le petit prince pour un princelet, et cette traduction apparaissait peut-être de cette manière-là, alors que la eta prinso donne véritablement son sens au titre comme Saint-Exupéry l'a écrit.
Donc, la eta prinso.
La eta prinso, ça veut dire le petit prince, et pas le prince pas grand, ou le prince laisse.
Et le nom de Saint-Exupéry reste le même?
Alors oui, les noms propres en principe restent les mêmes. Ils sont parfois, les prénoms sont parfois modifiés de manière à pouvoir être plus affectifs. Il y a une possibilité en espéranto de mettre des suffixes affectueux ou de pouvoir féminiser ou masculiniser un prénom parce que selon les pays, ça peut être utile. Mais en principe, par exemple, moi, François, c'est quelque chose de très difficile à exprimer en espéranto, alors on dira plutôt Francisco. parce que la langue est quelque chose qui évolue quand même assez rapidement aux besoins des nécessités. Par exemple, chaque fois que vous êtes dans un pays qui a besoin, ou une évolution technique qui a besoin d'un nouveau mot, on cherche à savoir si ce mot existe déjà ou s'il y a possibilité de le créer. Et si il n'y a pas cette possibilité-là, on admet volontiers la création d'une racine. Par exemple, en Suisse, les Suisses voulaient absolument pour exprimer le mot de la fondue. Donc, il n'y avait pas possibilité de créer un mot pour exprimer la fondue. On a proposé le mot fonduo. Et le mot est accepté par l'Académie, est entré dans le dictionnaire comme nouveau mot qui permet d'exprimer ce que est notre spécialité suisse.
Fonduo.
Fonduo.
Mordicus@rfr.ch, l'espéranto. Un espoir déçu.
Provino dei ragni, sì, e senti con di più.
Io e senti con
di più. E dai, irrita la cutena.
Yeah, yeah.
Senti tu l'attuno, che vengo qui e cima a te.
Io.
Un treno da te fa, ti rispici. Dai, io nella sangue, ti remo vada su di più.
De système. On se retrouve juste après les informations de 10h. Je ne sais pas comment on est en tour.
Mordicus. L'anti-Ypsilon.
Entrez.
Buon tardo, signoro.
Buon tardo, signoro. Chi è di fatta?
Pardonu, signoro. Mi alvena la fui.
Saluton, cara infanoi. Rapidu, rapidu. Bonjour, les enfants. Vous êtes en effet quelque peu en retard. Prenez vite place. et écoutez attentivement la fin des explications que je donne sur la cantonie.
Un rêve irréalisé, une jolie utopie, une langue qui n'a pas de patrie, l'espéranto, un espoir déçu. C'est la question que nous nous posons aujourd'hui dans Mordicus. Hein, nous avons entendu un extrait d'archives, une leçon d'espéranto. Est-ce que l'espéranto s'apprend facilement et rapidement, Claude Piron?
Oui. On peut dire que des recherches ont été faites, notamment à l'université de Paderborn en Allemagne, ont montré que au bout de 6 mois d'espéranto, à nombre égal d'heures hebdomadaires, la capacité de communication et de compréhension était la même qu'au bout de 6 ans d'une autre langue en anglais, en moyenne, notamment de l'anglais. Étant donné que l'espéranto suit de façon extrêmement précise le mouvement naturel du cerveau qui essaye de s'exprimer. Par exemple, tous les enfants disent « vous faisiez, vous disiez ». Tous les enfants disent « plus bon » au lieu de « meilleur ». Tous les enfants disent « des chevals ». Pourquoi ? Parce que nous avons la langue, c'est une série de réflexes, et nos réflexes fonctionnent d'autant mieux qu'ils sont réguliers. Or, l'espéranto suit ce mouvement naturel de l'expression de façon absolue. En espéranto, dès que vous avez acquis ce qu'on appelle un trait linguistique, une marque qui a une signification, vous savez que vous pouvez la généraliser à l'infini. Donc, vous avez un sentiment de sécurité parce que vous ne risquez pas de vous tromper. Il n'y a pas de verbe irrégulier, il n'y a pas de pluriel irrégulier. Tout ça n'existe pas. Et ça facilite le travail de la mémoire de façon considérable. En plus, comme les mots se forment les uns à partir des autres, par exemple, l'étranger qui apprend le français doit apprendre non seulement pain, mais boulanger, boulangerie, deux mots qui n'ont aucun rapport. En espéranto, pain se dit pano. Vous savez que le professionnel se marque par le suffixe isto, donc vous n'avez pas besoin de regarder dans le dictionnaire. Si vous savez pano et que vous avez appris le suffixe isto, vous savez que le boulanger sera panisto, et que la boulangerie ce sera paneio, ou panvendeio, si vous voulez. Et c'est comme ça pour tous les mots. Donc chaque fois que vous apprenez une racine, elle a un rendement qui est le décuple de ce qu'il y a dans une autre langue. On peut dire que le vocabulaire de l'espéranto s'apprend selon une progression géométrique et pas selon une progression arithmétique, parce que chaque fois que vous apprenez, par exemple vous apprenez que pour former l'adjectif vous mettez la terminaison A, eh bien je ne sais pas si vous savez quel est l'adjectif qui correspond à rêve en français. C'est onirique. Vous ne le saviez pas, mais en espéranto, si je vous dis que rêve c'est sonjo, automatiquement vous savez que onirique c'est sonja.
Oui.
Vous voyez, de ce fait-là, la langue s'apprend vite, elle s'apprend avec beaucoup de plaisir, c'est extrêmement agréable. Moi j'ai enseigné diverses langues, c'est extrêmement agréable d'enseigner l'espéranto.
Une